Alors, en effet, avez-vous des questions, des interrogations, des points sur lesquels vous souhaiteriez revenir ?
Oui, il y avait beaucoup de choses. C'est vrai que j'avais un peu la pression du timing, mais du coup, je suis allée un peu vite, donc n'hésitez pas.
Alors, on a une question, en effet, tout devant. On va vous apporter un micro. Regardez. Est-ce qu'il fonctionne ? Il fonctionne. Voilà. Alors je vous demanderai de bien vouloir vous présenter et puis de poser votre question.
D'accord. Bonjour, alors merci pour votre argumentaire qui était très complet, alors même si un peu rapide, et ce qui m'amène à peut-être, pas vraiment des interrogations, mais peut-être soulever trois points. Il y aura au moins une interrogation. Alors je m'appelle Antoine Lailly, je suis psychologue sur la maison des ados de Lot et Garonne. Le premier point, c'est la notion d'ascendance. Est-ce que c'est un filtre par lequel on pourrait penser toute forme de contrainte dans les relations sexuelles pour les mineurs, évidemment, quand il y a un adulte, il a nécessairement une ascendance sur un mineur. Alors peut-être à partir de 15 ans, les choses peuvent commencer à se questionner. Il me semble qu'il y a des âges qui ont été revus. C'est-à-dire que ce n'est pas tout adulte qui peut bénéficier de la notion de consentement sur la majorité sexuelle à partir de 15 ans. Mais de fait, quand il y a une ascendance, la notion de consentement est-elle encore valable ? C'est-à-dire quand il y a un professionnel, un professeur, je ne sais pas, ou une figure d'autorité concernant un mineur, voire même peut-être un majeur, parce que dans le milieu du travail, vous l'avez souligné, cette question peut être clairement posée. Donc est-ce que la notion d'ascendance, de fait, vient amener une impossibilité de consentement ? Ça, c'était la première question. Je vais livrer les trois. Et puis, sur l'ordonnance 45, alors, j'avais cru entendre dire, c'est la PJJ qui me l'avait dit, qu'elle avait été démantelée.
Maintenant, il y a le code du système des mineurs.
Voilà. Alors peut-être ça vaudrait le coup de voir qu'est-ce qui a changé. Alors, ça sera peut-être l'objet d'un prochain échange. Voilà, mais il me semblait que, justement, malheureusement, quelque part, l'ordonnance 45 avait disparu. Et en fait, le troisième point, c'est plus une remarque. Concernant l'obligation de signalement pour avoir pratiqué dans différentes institutions ou des échos de différentes institutions, il me semble que personne ne peut s'opposer à ce que quelqu'un fasse un signalement. C'est une obligation civile, c'est civique. Et bah, dans les institutions, quelquefois, il y a des figures d'autorité qui peuvent dire bah, « non, 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 là, il ne faut pas faire de signalement ». Mais ça, c'est interdit, il me semble. Voilà, je voulais avoir votre réaction par rapport à ça. Merci.
Et merci pour vos questions. Merci beaucoup. Katia Basile, je vous laisse peut-être y répondre.
Alors d'abord, je vais répondre d'abord au CJPM parce que c'est important. Du coup, il y avait un grand texte qui était l'ordonnance de 45, et un texte après-guerre, du coup, par rapport notamment à toutes les violences faites aux enfants pendant la guerre. Donc c'était un texte qui était particulièrement imprégné de cette idée, du coup, de protéger les enfants après l'après-guerre. Et c'est De Gaulle qui avait un peu porté différentes idées par rapport aux enfants. C'est un texte qui était devenu illisible. Donc, dans les années 2020, il y avait eu plein de réformes successives, les textes sur l'autorité parentale, les lois sur la protection de l'enfance de 2007 notamment, et du coup l'ordonnance 45. En fait, il y avait l'ordonnance, il y avait plein de lois, et ça avait été un peu, c'était illisible. Du coup, en 2021, il y a eu la CJPM qui est rentrée en vigueur. Ça a été super long de le faire rentrer en vigueur parce que c'était le Covid, donc ça a été retardé. Mais le Code de justice pénale des mineurs, il reprend un peu l'ordonnance 45 et toutes les réformes successives qu'il y a eu, et il rend tout ça plus digeste. En gros, c'est l'idée. Mais il y a toujours la grande philosophie de l'éducatif sur le répressif, et cette question, elle est réaffirmée. Le CJPM, ce que ça fait, c'est que ça crée un procès qui est en trois phases, et ça, c'est un peu la révolution du Code de justice pénale des mineurs, c'est que le mineur, il n'est plus jugé sur l'acte qu'il a commis, mais un peu sur son évolution. Donc, il y a un premier jugement. Il y en a un au milieu et il y a la fin qui va un peu voir toute l'évolution de l'enfant. Donc ça vient réduire les délais. En fait, les enfants étaient jugés en moyenne, je crois que c'était 5-6 ans pour qu'il y ait une audience. Enfin, c'était très 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 long. Et du coup, les victimes n'étaient pas indemnisées et les mineurs étaient dans l'attente en fait, d'un procès. Donc le CJPM, il demande à raccourcir les délais parce qu'au niveau européen, en fait, on a une obligation d'avoir des délais raisonnables pour être jugé. Néanmoins, il y a beaucoup de professionnels qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits parce qu'en fait, les mineurs maintenant sont jugés en moyenne en un an. C'est ce qu'on demande, en fait, alors qu'il n'y a pas plus d'avocats, il n'y a pas plus de juges, il n'y a pas plus de ressources dans la justice. n'y a pas plus d'éducateurs PJJ, ils ne sont pas mieux payés, donc on leur demande de faire quelque chose de très rapide. Et finalement, les mineurs ne sont pas mieux jugés, parce que quand on juge rapide, en fait, on n'a pas non plus le temps de voir l'évolution des mineurs. Les mineurs qui mettaient 5 ans à être jugés étaient jugés avec beaucoup moins de sévérité, parce qu'en fait, on voyait vraiment que souvent, ils n'avaient pas récidivé, que c'était un truc un peu annexe dans leur parcours, et qu'on voit que toutes les procédures accélérées de jugement, les gens sont jugés beaucoup plus sévèrement. C'est encore dans le... L'opinion publique est encore très vive et les faits sont encore très récents et on ne voit pas si la personne a évolué. Et toutes les comparutions immédiates montrent que les personnes ont des peines beaucoup plus importantes. Donc oui, il faut des délais, enfin il faut être jugé dans des délais raisonnables, mais ce que montre du coup là sur les 5 dernières années les procès accélérés de mineurs, ça n'a pas donné des choses fameuses non plus. Voilà un peu pour le CJPM. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour moi, c'est les éléments voilà les plus importants de ce code de justice. Ce que dit le code de justice, qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a un article 10 ou 14, je crois, qui dit que les mineurs, maintenant, on doit leur proposer la justice restaurative. Et finalement, aucun éducateur PJJ pratiquement n'est formé à ça et aucun le propose, mais c'est un des défis de ce code de justice pénale des mineurs. On a calqué, du coup, l'article du code pénal, je crois que c'est 10.1, on l'a mis dans le 14 du CJPM et on a dit que tous les mineurs, on devait leur proposer une mesure de justice restaurative. Ça ne se fait pas vraiment, et je crois que j'avais parlé, il y avait un responsable PJJ qui était un peu formé à la justice restaurative, et c'était un des seuls dans son département qui connaissait un peu la justice restaurative pour en parler aux enfants. Par rapport à l'ascendance, l'ascendance c'est un terme qui est plutôt utilisé pour les ascendants d'un point de vue familial. Donc avant l'inceste, on ne disait pas inceste, on disait ascendant direct, donc c'était la ligne grands-parents-parents verticale. Maintenant il y a des lignes... comme ça, il y a les oncles, tantes, frères et sœurs. Donc on disait qu'avant, voilà, on ne disait pas les incestes, mais on disait viol sur mineur par ascendant. Donc quand c'était un viol sur mineur par ascendant, on disait que c'était un viol qui était aggravé, on passait de 15 à 20, en gros. Par contre, on parle d'autorité pour les autres formes de violence sexuelle, donc c'est par personne ayant autorité, c'est autorité de droit ou de fait. Donc l'autorité de droit, ça peut être des parents ou des tuteurs qui juridiquement ont une autorité sur des personnes. Ou un employeur, ça pourrait être une autorité de droit. Et autorité de fait, c'est des personnes qui, ça peut être des beaux-parents. Par exemple, c'était la notion de personnes qui n'avaient pas des droits directement, mais de fait, ils avaient autorité sur des personnes. Donc là, si automatiquement les personnes sont punies, mais même avec la présomption de consentement, ils ne sont pas automatiquement punis. Il faut qu'il y ait une plainte. Il faut qu'il y ait une enquête. Il faut que ça ne soit pas classé sans suite. Il faut qu'il n'y ait pas de non-lieu. Il faut qu'il y ait assez de preuves finalement. Et suite à tout ça, le juge est souverain dans son interprétation des faits et dans la sanction qu'il applique. Donc oui, la loi dit ça, et la loi elle prévoit toujours un maximum légal dans lequel, depuis Taubira 2015, toutes les peines sont individualisées. Ça veut dire que le juge peut moduler complètement la sanction qu'il applique avec un maximum prévu. Donc quand on dit par exemple le viol simple c'est 15 ans encourus. Donc on peut aller jusque là. Mais on peut moduler totalement la peine et proposer d'autres choses aussi, des alternatives, ou le juge d'application des peines peut prévoir même de faire la peine différemment. Donc les personnes ne sont jamais automatiquement sanctionnées. Il existe des droits, il faut que la victime porte plainte, il faut que ça soit signalé, et après, il faut que ça soit pas prescrit, pas classé sans suite. Suite à l'enquête du juge d'instruction, il ne faut pas qu'il y ait de non-lieu. Et donc il y a tout un processus qui fait qu'il y a beaucoup de violences, de viols qui sont... correctionnalisé aussi, il y a beaucoup de viols pour lesquels il n'y a jamais de plainte, etc. Par rapport à la prescription, c'est aussi une question importante. Pour les viols sur enfants, les crimes sur enfants, il y a 30 ans à partir de la majorité pour porter plainte. Ça, c'est à peu près la base. Pour les viols, crimes, en général, c'est 20 ans à partir de la découverte de l'infraction et pas de l'infraction. Je m'explique, ça veut dire que ce n'est pas le jour où on tue la personne, par exemple, c'est le jour où on découvre le cadavre qui fait courir le délai de prescription. Et depuis bilan, s'il y a une autre victime, on peut profiter du coup de la... S'il y a le même type d'infraction, même auteur, on peut bénéficier de nouveaux délais de prescription. Et chaque acte d'enquête augmente le délai de prescription. Pour les violences sexuelles, il y avait Flavie Flamand, qui était une militante connue, du coup, qui avait été victime de viol pendant son enfance par un photographe. Et elle avait porté plainte à 50 ans, donc c'était prescrit. Et elle a dit qu'en fait, avant 50 ans, elle ne se souvenait pas qu'elle avait été victime de viol. Et qu'à cause de la mémoire traumatique, elle s'en était souvenue seulement à 50 ans. Et elle a parlé d'un phénomène du coup psychologique qui faisait que la plupart des victimes mettaient plus que le délai de prescription à se souvenir de viol, en fait. Et que ça intervenait plutôt après le délai de prescription. Donc elle a demandé que la découverte de l'infraction, ça puisse être mis en lien avec l'amnésie traumatique, que l'amnésie traumatique devrait augmenter les délais de prescription. Et dans son cas, ça a été reconnu. Donc la prescription, ça peut être étendue à travers différents artifices juridiques aussi. Et c'est le cas de Flavie Flamand qui disait que l'amnésie traumatique devait étendre les délais de prescription. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question sur l'ascendant. Et l'obligation de signalement. Alors, il y a deux choses. Il y a une obligation professionnelle. Vous avez, le secret professionnel. Donc, normalement, à partir du moment où on vous dit un secret, même s'il est connu, etc., dans le cadre de votre pratique professionnelle, vous ne devez jamais le révéler. Des exemples de secrets révélés qui étaient des secrets, par exemple, il y a un cas d'un éducateur, je crois, dans une MEX, il y a une jurisprudence, il avait révélé qu'un des jeunes avait le VIH. Ça, c'est un secret professionnel. Révéler qu'une jeune avait avorté. Ça, la mineure n'est pas en danger, on révèle une information confidentielle. Là, il y a des sanctions. Ça veut dire qu'on ne doit pas dire tout ce qu'on acquiert dans sa pratique qui relève du secret. Par contre, il y a une jurisprudence de 2013, qui est une jurisprudence qui s'applique tout le temps, qui dit qu'on ne peut pas se cacher derrière un secret professionnel pour ne pas respecter cette obligation de signalement. Donc le signalement passe avant le secret professionnel. À partir du moment où il y a des violences ou même des risques de violence, il faut signaler. Les professionnels doivent le faire, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, et personne ne peut leur empêcher de le faire, c'est une responsabilité professionnelle personnelle. Ça, c'est d'un point de vue pour les autorités publiques, les fonctionnaires et tous les groupements qui ont une autorité constituée. Ensuite, on a une obligation personnelle, c'est les 434 et suivants du Code pénal, qui disent que quiconque qui est au courant de crime ou quiconque qui est au courant de mauvais traitements ou de risques sur mineurs est obligé de signaler. Et après, vous avez tout ce qui est non-assistance à personne en danger, c'est les 226 du Code pénal, qui disent que le fait du coup, de ne pas porter assistance à une personne en danger, vous encourez des sanctions pénales. Donc non, personne ne peut vous empêcher de signaler et même on ne doit rien mettre en place qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues au moment de signaler. Et je sais que des fois, il y a des institutions qui demandent à signer, à faire un truc ensemble, ça on peut. Il y a des autorisations au partage du secret professionnel dans le cadre du signalement. Vous avez le droit de partager avec d'autres professionnels, mais vraiment avec l'intention d'accompagner le mieux possible un signalement. Mais par contre, il n'y a rien qui... Et notamment, ça c'est des recommandations HAS... Il y en a une de 2022, je crois, sur vie affective et sexuelle, qui rappelle qu'il y a des institutions, notamment, il fallait le tampon du supérieur pour envoyer le signalement, que ça, dans les recommandations de bonne pratique HAS, c'est plus possible. Mais bon, c'est des recommandations de bonne pratique, mais je crois que ça rappelle différentes jurisprudences qui sont allées dans ce sens, etc. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ?
Est-ce que nous avons d'autres questions ? On en a une autre, allez-y madame, merci de vous présenter.
Oui, bonjour, je suis Marilyn Lassagne, sexologue. Vous abordez la question des violences sexuelles. On a une justice française qui est basée sur les preuves. La preuve de la violence physique, c'est la blessure physique. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que la preuve de la blessure psychique... n'est pas prise en compte de la même manière que la preuve de la blessure physique. Ce qui fait que de nombreux procès, finalement, ne conduisent pas à des condamnations. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici une carence dans le milieu de la justice par rapport à la reconnaissance de la blessure psychique au même titre que de la blessure physique ?
Je ne vous vois pas, pardon, vous pouvez juste lever la main. Merci. Alors, il y a différents arrêts, je crois qu'il y en a un de 90 sur la torture psychologique. En fait, les jurisprudences ont dit que normalement, les violences physiques ou psychologiques, si elles ont la même intensité, doivent être sanctionnées pareil. Et c'est le cas de la torture, notamment psychologique ou physique. Ça, c'est ce que dit le Code pénal. Il y a les mêmes peines, c'est calculé en jours d'interruption de travail d'ITT. Donc, que ce soit physique ou psychologique, si ça a entraîné le même nombre d'ITT, ça doit être sanctionné de la même façon. Ça, c'est le principe. Néanmoins, on voit que psychologiquement, peut-être qu'il y a une moins bonne reconnaissance, peut-être qu'on n'arrive pas à reconnaître pareil et que peut-être que dans les faits, il n'y a pas le même type de sanctions applicables. Ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, il y a différentes preuves. Donc, il y a des preuves qui s'appellent des preuves irréfragables qu'on ne peut pas renverser. Et quand c'est des experts de la justice, et notamment la médecine légale, c'est des preuves qui se disent irréfragables. Donc, quand c'est apporté par ces experts-là, le juge n'a pas le droit de renverser cette preuve et il doit en tenir compte. Quand c'est des preuves apportées par d'autres professionnels, son médecin ou son psychologue, c'est un faisceau d'indices et le juge en a la libre interprétation. Donc on peut voir son psychologue et lui demander d'établir la preuve de sa souffrance psychologique, mais si ce n'est pas un expert de la justice, ça n'a pas le même poids de preuve. Mais oui, vous avez raison, peut-être qu'il y a une très mauvaise prise en compte des violences, enfin des de la souffrance psychologique et qu'on n'arrive pas encore à la mettre au même niveau que la violence physique. Ce que dit la théorie, c'est que normalement, jour égal d'ITT, que ce soit physique ou psychologique, c'est la même sanction pénale.
Oui, parce que je pense à deux points importants, l'état de sidération et également les effets de stress post-traumatique qui, en fait, sont toute une somme de symptômes qui semblent n'avoir strictement aucun rapport avec un vécu de violence, mais qui sont quand même des états de stress post-traumatique qui sont maintenant identifiables, mesurables et qui pourraient constituer des preuves.
Bien sûr, et il y a Merci. La notion d'emprise. Je sais que là, actuellement, il y a un débat sur définir l'emprise, qu'est-ce que c'est, que juridiquement, ça devrait rentrer dans le code pénal, que là, c'est en débat. Et c'est pour ça que je vous avais mis l'arrêt là, de 2003 de la Cour européenne des droits de l'homme Bulgarie, parce que ce que dit cet arrêt, c'est qu'il rappelle à tous les États membres qu'en fait, il faut avoir connaissance en fait, des processus psychiques, des violences sexuelles, et notamment de l'état de sidération. Et ça, le rappelle à l'entièreté des pays européens, et que la loi doit se faire en prenant en compte que dans le consentement, on doit tenir compte de tout ce que c'est l'expertise psychologique dont aujourd'hui que les États membres devraient connaître, notamment l'état de sidération. Mais par rapport au Cour européenne des droits de l'homme, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie beaucoup, mais il y a un débat juridique par rapport à où est-ce que c'est la place des instances internationales. Parce que vous avez une petite pyramide de Kelsen, donc, et en gros, la Constitution, c'est au sommet de notre norme juridique, et toutes les autres normes, notamment la loi, les décrets, doivent respecter la Constitution. Il y a certains juristes qui disent que les traités internationaux, c'est au-dessus de la Constitution, mais il y a d'autres juristes et les juges, des fois, qui disent que c'est un peu à côté. Donc il y a des juges, des fois, qui décident que tout ce qui sont les résolutions des Nations Unies, Cour européenne des droits de l'homme, Union européenne, finalement, ce n'est que des recommandations et qui s'en inspirent plus ou moins comme ils veulent. Même s'il y a des sanctions régulièrement contre la France, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, finalement, c'est pas très clair la place que ça a dans notre espace juridique. Néanmoins, ça existe et la Cour européenne des droits de l'homme régulièrement rappelle aux États membres de légiférer avec plus d'importance sur les questions de consentement notamment.
Alors, avions-nous une autre question dans le public ? On vous apporte un micro, regardez. Merci de bien vouloir vous présenter.
Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Je suis Philippe Martin, chercheur en santé publique. Moi, j'avais plusieurs questions, dont la première sur la notion de preuve obtenue de manière illicite. Est-ce que la personne qui apporte une preuve de manière illicite peut être attaquée suite à l'apport de cette preuve-là ? Puisque j'imagine que ça peut aussi parfois dissuader certaines victimes de produire des preuves dans ce cadre-là. Donc ça me questionnait sur ce point-là. Et ensuite, j'avais une autre question peut-être sur les personnes que vous avez interrogées dans le cadre de votre étude sur OnlyFans et les personnes qui allaient sur ces plateformes. Comment, d'une part, vous avez atteint les personnes que vous avez interrogées ? Est-ce que les tuteurs légaux, les parents, ont une responsabilité face aux mineurs qui iraient justement sur ces plateformes ?
Merci. Du coup, alors, par rapport à l'illicité de la preuve ou la preuve déloyale, dans le droit pénal, la plupart des infractions, c'est des infractions d'intention. Ça veut dire que pour les commettre, il faut en avoir l'intention, sauf l'homicide involontaire, les blessures involontaires, ça c'est spécifiquement dit involontaire. Sinon, il faut l'intention. Ça veut dire que là, ce qu'on regarde, c'est l'intention. L'intention, c'est peut-être pas de porter atteinte à la vie privée, mais c'est de se protéger ou de prouver. Donc à partir du moment où on n'a pas l'intention de commettre une atteinte à la vie privée, normalement, ça ne peut pas être constitué. Donc on pourrait par exemple du vol de documents pour prouver qu'on est victime de discrimination, c'est une preuve déloyale, le testing c'est une preuve déloyale, mais ça a vocation à être potentiellement recevable. Il y a des cas où c'est pas reçu, il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, c'était un employeur qui voulait prouver que ses employés le volaient. Donc il avait mis des caméras de surveillance H24 dans son magasin pour prouver que les employés le volaient. Il s'avère que les employés le volaient vraiment, mais ça a été une preuve qui a été jugée qui violait trop en gros la vie privée parce qu'ils étaient filmés H24 sans le savoir. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit que ça c'était une limite à la preuve déloyale. Donc il y a des cas aussi, il y a des limites, mais là on voit quand même que c'est assez extrême quand même comme atteinte à la vie privée. Il y a une subtilité, les personnes publiques n'ont pas le droit à la preuve déloyale, elles n'ont que de la provocation à la preuve et pas de la provocation à l'infraction. Par exemple, je suis policier, je veux prouver qu'une personne vend de la drogue. Si je vais le voir, je dis, ok, tu vends telle substance, je peux te l'acheter. S'il me le vend, c'est de la provocation à la preuve, je peux le faire. C'est comme du testing. Mais si je vais le voir, que je lui dis, ok, pour 5 000 euros, tu peux me vendre cette substance, et le jeune me le vend, c'est de la provocation à l'infraction. Sans mon intervention, il n'aurait peut-être jamais vendu ça et on ne pourra jamais le prouver. Donc si jamais les policiers font de la provocation à l'infraction, c'est pénalement répréhensible. Première chose sur la preuve. En droit civil, par contre, la preuve, elle est très, très encadrée et il y a différentes choses. Donc, en fait, vous avez le droit pénal, le droit civil. On dit que le droit pénal tient le civil en taille. Il faut toujours intervenir sur le pénal avant d'intervenir sur le civil. Une fois qu'on a les peines, on peut avoir des réparations, des dommages d'intérêt. Et pour le civil, il n'y a rien qui est chiffré. Chaque victime peut chiffrer, selon sa situation personnelle, ses dommages d'intérêt. Alors qu'au pénal, tout est chiffré. Et la peine, l'amende, c'est pour l'État, c'est pour réparer toute la société. Alors que le civil, c'est quelque chose qui est individuel. Et le pénal, c'est plutôt quelque chose qui est nous et l'État. Première chose, par rapport aux jeunes que j'ai interrogés. Alors, j'ai été hyper honnête avec toutes les jeunes que j'ai interrogées. J'ai juste envoyé des messages à plein de jeunes filles sur les réseaux et je me suis présentée. Et j'ai dit que voilà, je menais cette enquête. Si elles étaient intéressées, on pouvait avoir un temps d'échange. Et j'ai eu beaucoup de réponses, étonnamment. Enfin, à l'époque, je pense que j'étais une femme, j'étais jeune. Peut-être j'étais sympathique pour elles. En tout cas, ça avait bien marché. J'ai eu beaucoup de retours, vraiment beaucoup de confidences. Et il y en a qui m'ont vraiment demandé mes diplômes, tout ça pour être sûre. Donc j'ai envoyé, il n'y avait pas de souci, j'ai envoyé la copie de mon diplôme de sexologie. Je leur ai bien dit tout ce que je faisais, que si elles voulaient la moindre question, enfin, j'étais là, qu'on allait prendre le temps. Et du coup, j'ai procédé aux entretiens. Aucune ne m'a dit officiellement qu'elle était mineure. Elles avaient toutes l'air très jeunes. Donc la plupart n'ont jamais révélé leur minorité. En fait. Donc c'est ça qui a été un peu difficile. Des fois, elles me disaient, j'ai 18 ans. Physiquement, je ne pense pas qu'elles avaient 18 ans. Mais après, peut-être. Donc, j'ai eu des jeunes majeurs et je pense des mineurs, mais ce qui a été dur à déterminer, la plupart me disaient 18 ans et plus. Suite à ce mémoire, du coup, je me suis retrouvée dans la difficulté de est-ce que je dois signaler tous les faits. Donc, ça, j'en avais parlé à mon tuteur de mémoire. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces données? Est-ce qu'il fallait signaler? Donc, je crois qu'on avait quand même fait quelque chose avec la CRIP de demander que ça existait, que je n'avais pas vraiment l'identité de ces jeunes filles, que c'était très compliqué parce que moi, je les avais interrogées, maintenant j'allais signaler. Et qu'elles m'avaient tout donné, enfin, j'avais anonymisé les données aussi. Et c'était ça que j'avais convenu avec elles, que j'anonymisais leurs noms, les professions, tout ce qui pouvait les identifier dans le cadre de la recherche. Et est-ce qu'il y avait une autre question par rapport à ça?
C'était par rapport à la responsabilité des tuteurs légaux si les mineurs sont amenés à...
Tout avait l'air très isolé. Des fois, des cas très graves de violence. Il y en avait une qui m'avait raconté que son père avait tué sa mère, avait commis un féminicide. Enfin, c'était toutes des mineurs extrêmement isolés quand je leur demandais leur famille, les liens qu'elles avaient. Mais je pense que oui, leurs parents avaient... si jamais on est au courant que ces enfants sont en situation de prostitution, victimes de traite... On est quand même sans. Enfin, les parents, du coup, dans le cadre de l'autorité parentale, doivent participer à l'entretien des enfants, à leur développement psychique, psychologique. Donc, je pense que ça va à l'encontre de ce que la définition sans violence de l'autorité parentale.
Merci.
Alors, a-t-on une autre question dans le public pour Katia Basile? A priori, non. Bah, pour le moment, tout vous paraît clair? Pas de partage d'expérience non plus. Donc pas de questions. Eh bien, écoutez, on peut applaudir. Katia Basile, merci beaucoup pour cette conférence.